tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
La France est un pays, un idiome, on dit... Droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, les trois mots. Moi, à mon avis, liberté, je ne suis pas libre d'un côté. D'autre côté aussi, il n'y a pas l'égalité. De l'autre côté, on n'est pas des frères, il n'y a pas fraternité. Moi, je trouve que cette devise, elle n'est pas du tout respectée. Pour des gens qui ne sont pas régularisés, qui n'ont pas de papier, même pour ceux aussi qui sont régularisés, c'est pas appliqué. C'est comme si on prend une photo, on l'affiche, mais au fond, c'est pas ce qui est appliqué. Normalement, si on fait parler les textes juridiquement, liberté, égalité, fraternité, il y a beaucoup d'éléments importants qui doivent être normalement mettre à la disposition de l'humain. Parce que, bien avant tout, on est tous des humains. Et c'est le sang est rose, c'est le même sang qui coule. La couleur du pot, ça ne veut rien dire.
A-t-on le droit d'exprimer sa colère?
Nous sommes des demandeurs d'asile et nous organisons la télé-radio à plus d'une voix, accompagnée de deux membres de l'association Modus Operandi.
Dans cet atelier, nous évoquons des sujets, nous discutons et nous l'enregistrons. Été 2019, un sujet a surgi.
La colère.
La colère, parce que l'administration nous fait marcher.
La colère, parce que nos droits ne sont pas respectés.
La colère, parce que mentalement, on n'arrive plus à tenir l'injustice.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'être en colère? Est-ce qu'on peut manifester sa colère à toutes les situations?
Nous, les demandeurs d'asile, on doit être en colère deux fois. Deux fois, on ne peut pas. Parce que, vu notre situation, on est dans une prison surveillée. Quand j'ai dit une prison surveillée, on te dit, tu viens jusqu'à ici, c'est ta limite. Si tu dépasses là-bas, toi-même, tu sais que toi qui parles, tu sais que qu'est-ce qui t'attend là-bas. C'est la loi du plus fort. Je ne peux pas tourner autour du pot. C'est ça qui nous impose. Selon ce qu'on vient d'écrire, liberté, égalité, fraternité, nous les demandeurs d'asile, on ne voit pas ça. Quand tu prends 100 personnes aujourd'hui, nous les demandeurs d'asile, les 70% ou bien les 95% veulent travailler. Oui, ils ont parfaitement raison. Parce que vouloir rester à la maison ou bien vouloir marcher comme ça là dans la rue, tu ne fais rien, ça va te donner des idées qui ne sont pas bonnes.
Comme vient de dire Keïta, La procédure d'asile, c'est une surveillance. Parce que nos droits sont limités et contrôlés. Il n'en manque un important, celui du travail.
Et sans ça, on dépend du système social. Nos droits sont donnés au compte-gouttes, où certains n'ont pas d'hébergement pendant toute la procédure.
Certains n'ont pas d'allocation. Et quand on essaye d'accéder nos droits, on nous soupçonne d'abuser ou de mentir.
Moi, j'ai juste une question. Au niveau de la colère, qu'est-ce qui provoque la colère du moins? Quelle est sa conséquence aussi, quoi?
Bon, pour moi, je ne sais pas si étant en situation irrégulière, quand on est en colère, je ne pense pas qu'on peut automatiquement manifester la colère parce que tu ne connais pas ton droit. Tu ne sais pas à quoi tu as droit, donc c'est très difficile de manifester sa colère. Souvent, tu es frustré et autres. Mais pour manifester la colère, c'est très, très difficile. Quand nous sommes arrivés au début ici, j'étais malade et autres. Il y a des comportements qu'on me faisait dans les administrations, vraiment, à l'hôpital, qui me frustrait beaucoup, qui me mettait en colère. Mais puisque je ne sais pas à quoi j'ai droit, donc j'avais tout le temps peur de répondre, puisque je me dis, si je réponds à ce qu'il me disait, qui me frustrait au fond de moi, est-ce que je n'allais pas avoir des retombées de ce que j'allais dire?
Pour moi, la colère, le mot est un peu trop fort. Moi, je trouve ça un peu fort, la colère. Moi, je parle de frustration, déception et mécontentement. Frustration. Un an, deux ans passés ici, tu n'as pas droit au travail. Frustration parce que tu n'es pas à mesure de satisfaire tes enfants. Déception, quand tu es hors de la France, quand tu n'as pas de la France, c'est un grand pays. Ils ont des institutions fortes, une forte politique. Dans notre pays, on suit quand même les chaînes qu'on appelle étrangers, les France 24, les TV5, même TF1, on suit les informations dessus. Mais quand on nous parle de la France, tu as comme l'impression que quand tu arrives en France, moi personnellement, dans mon parcours, je n'ai jamais pensé un jour arriver en France ici. Non. Je ne suis pas venu en France ici parce que côté financier ou ça, mais non. Mais c'est suite à un événement qui a suivi ma vie. C'est ce qui a fait que je suis arrivé en France ici. Mais quand je suis arrivé ici, en venant déjà, moi j'ai cru que une fois arrivé en France, j'allais être accueilli comme nous, on accueille les Français qui arrivent chez nous. Moi j'ai cru que on allait être accueillis comme ça, même si ce n'est pas au même niveau, mais quand même, on allait être accueillis. Et quelques mois plus tard, ils allaient trouver quelque chose pour qu'on fasse des petites formations, des petits boulots pour pouvoir s'occuper un peu de nos enfants. Mais c'est là, je n'ai pas les déceptions dessus de la France. Mécontentement. C'est. Ça vient dans. Bon, tout ça, ça se rejoint, mais. Pff. Thank you.
quand je disais est-ce qu'on a le droit d'exprimer sa colère. Je sais qu'il y a une différence entre droit et devoir, mais nous, dans notre posture, par exemple, quand on est dans cette posture-là, de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assister, donc on dit la main qui est en dessous, la main qui reçoit. Je l'ai dit la dernière fois que quand tu as le doigt dans la bouche de quelqu'un, tu ne peux pas lui taper sur la tête. Sinon, tu risques de te faire mordre. Donc, quand c'est comme ça, on peut pas. Donc, on se pose la question souvent, est-ce qu'on peut exprimer sa colère? Souvent, tu as conscience que c'est ton droit. Mais à cause de ton statut ou bien ta situation administrative, tu étouffes cette colère-là qui reste en toi. Et ça fait que, finalement, tu es toujours insatisfait. C'est l'injustice au quotidien. Et moi, ma crainte, c'est que ça peut arriver à l'exploser un jour. Parce que souvent, au moment où on devait réagir, on n'a pas réagi, mais sur des futilités, des choses plus simples. Quelqu'un va réagir assez, on dit, c'est une réaction exagérée et ça conduit à des choses plus graves. Pourtant, on ne se rend pas compte que c'est le fait d'avoir accumulé des frustrations, des injustices. Ce fait-là fait que cette accumulation arrive à cette explosion un jour, et puis bon, voilà.
Comme Kofi nous a parlé de l'accumulation des injustices et comment des futilités peuvent nous faire exploser, ça nous a fait penser à ce qui est arrivé à Keita quand il est allé à la directe qui s'occupait des autorisations de travail pour les demandeurs d'asile. Il avait rempli un dossier avec un patron qui voulait l'embaucher. Mais la responsable qui l'a reçu a refusé de prendre son dossier, alors qu'il avait droit. Il voulait comprendre qu'elle lui explique pourquoi. Mais sa manière de parler était désagréable. Elle ne voulait pas lui répondre, alors qu'il avait droit. Il s'est senti piétiné. Cette manière d'accueillir nous paraît comme choquante.
La question qu'on se pose, est-ce que c'est la manière dont qu'il reçoit les Français?
Je prends l'exemple sur moi-même. Quand je me suis discuté avec la dame à la directe là-bas, j'étais en colère. Oui, j'étais en colère. J'ai dépassé même les bornes. Parce que pourquoi? Si je me vois déjà... C'est que l'effort que j'ai fourni pour attirer le patron envers moi, pour que je puisse lui satisfaire, il me propose quelque chose qui me donne l'espoir de me retrouver une nouvelle vie. Et je vois quelqu'un qui est assis derrière son bureau et puis je viens, il me parle bizarrement, quoi. C'est-à-dire, il me parle d'une manière qui me choque au fond de moi. Et pourtant, elle sait que ouais, quand je lui parle comme ça, là, c'est ça qu'elle va faire. Donc moi aussi, j'étais obligé de lui montrer que oui, vous êtes intelligent plus que moi parce que vous avez un niveau élevé. Mais moi aussi, le peu que je connais mes droits quand même. Donc quand je me suis énervé jusqu'à un certain niveau, c'est moi-même qui me suis conseillé. J'ai dit bon, c'est ici que je dois m'arrêter. Parce que quand je dépasse ici, il a plein pouvoir sur moi. S'il appelle la police là-bas, un, ils vont m'arrêter. Deux, je vais avoir un autre problème aussi.
We'll be right back.
rendre publique la colère, c'est bien pas pour que, l'État puisse sache que non, ces gens-là ne sont pas satisfaits, ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas contents de ce qu'ils vivent. Et par rapport à la manifestation, l'État peut faire quelque chose pour changer ou améliorer notre situation. On a des capacités, on a des choses à faire, mais on est coincé, on est bloqué. Avec la manifestation, si la colère est rendue publique, l'État peut comprendre. Peut comprendre et peut envisager de faire quelque chose pour nous. Mais s'il y a des personnes qui peuvent nous aider à rendre publique notre colère, ça sera une bonne chose.
Je ne sais pas, pour moi, j'ai déjà réfléchi sur cette question parce que quand j'ai vu toute cette manifestation que les Français font maintenant et toutes les colères qu'ils sont sentir, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai le droit d'être avec tous les gens dans les roues? Après, je dis non, peut-être. On reste étranger, c'est des problèmes personnels entre les peuples français et les États français. Mais si on est réfléchi, on a le même problème. On a besoin de travail, besoin d'être, vivre en dignité. On a la même besoin dans... quelques cas, on a le droit d'être avec les Français dans les roues. Dans un autre, je suis quelquefois peur de faire ça.
Je voulais donner mon point de vue sur le droit de manifester. C'est, en fait, on a droit d'être en colère, mais aussi on a droit de manifester, mais après... Moi, je trouve que ça serait rien, en fait, de faire des manifestations. Parce que, au lieu de ça, moi, je préfère, vaut mieux faire des démarches administratives, prendre un avocat et appuyer sur le dossier et aller jusqu'au tribunal et faire des démarches comme ça, au lieu de faire des manifestations dans la rue. Et c'est vrai, les gens, ils te voient, mais après, ça s'arrête là, en fait. Du coup, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne va pas loin. Mais quand on fait les démarches administratives avec des avocats, et quand on fait des dossiers avec des papiers, des preuves, et de leur montrer que... Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ça? Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir ça? Pourquoi vous avez refusé ça? Pourquoi ça? Extra, extra. C'est mieux que juste, en fait, de manifester après le soir, je sais pas, rentrer chez soi.
C'est bon de manifester. D'autre part aussi, c'est bon d'entamer les démarches administratives. Parce que il y a un proverbe qui dit... Chez nous, en Chouchou, l'eau chaude peut tuer quelque chose, comme l'eau froide aussi peut tuer quelque chose, quoi. Donc, c'est-à-dire, si on va sur le démarche administratif, on peut envoyer des courriers à l'administration de revendiquer ce qu'on ressent. On les explique. En les expliquant, peut-être, les réponses vont venir qui vont nous satisfaire. En cas, si les réponses ne viennent pas, qui ne satisfait pas, on a droit de se manifester. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, là, sans rien faire. On a des frères aujourd'hui, moralement, psychologiquement, ça ne va pas. Tu les vois marcher, mais leur esprit est ailleurs.
Je voulais réagir par rapport à la personne qui a dit qu'il faut engager des avocats et puis faire des démarches administratives. Il y a des avocats, oui. On peut faire des démarches administratives. Mais en France, il y a des critères. Il faut tout d'abord entrer dans les critères. Quelqu'un qui vient d'être débouté, il doit rester comme ça. Si c'est 5 ans ou 10 ans, sans rien faire, sans le travail, comment il va vivre, comment il va manger. Même s'il part trouver un avocat, l'avocat va lui dire qu'il n'est pas dans les critères.
Mais va rester comme ça. Donc, à une personne comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? À une personne comme ça, il ne va faire rien. Même si tu viens d'entrer dans les critères, arriver là-bas, il donne les papiers à ce qu'il veut. Tu peux arriver là-bas avec tous les preuves, non, je suis dans les critères, voilà, on te dit non, tu n'as pas le droit. Donc c'est bizarre. Donc c'est bizarre, j'ai tout ça injuste. Je ne sais pas comment on va vivre. Comme le droit n'est pas favorable. Le droit n'est pas favorable à une personne comme ça qui vient d'être députée. Il doit rester comme ça. Bon, je ne sais pas. Alors, c'est quoi la solution? Donc, c'est ce que je demande. C'est pour ça que j'avais dit récemment avant, on doit être en colère, manifester, faire quoi? Mais s'il faut manifester, comment on va manifester? Comment on va les faire? Donc, tout ça. Donc, je me vois mal de rester comme ça sans rien faire. 5 ans, 10 ans sans rien faire. Donc, c'est le temps qui passe. On reste pas des enfants. On grandit. Et qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir, pour demain? En restant comme ça, 10 ans, ça rien fait, 5 ans même, 15 ans même. Sinon. C'est pas normal. On ne peut pas aussi retourner là d'où on est venu. C'est ça le problème.
Je me demande sur ça en fait. Tout ça, voilà. Parce que, ils sont là à gréver pour, c'est-à-dire pour le problème de retraite. Là, nous, on ne peut pas gréver contre ça en fait. Parce que même si on peut gréver, mais c'est-à-dire, il faudra qu'on a des éléments en fait qui peuvent être devant nous pour combattre ces choses-là en fait. Mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas ce droit-là en fait. Même si on a le droit, mais on n'en a même pas. Parce qu'on le dit comme ça, on n'en a pas. Donc, ce n'est pas pareil que les gens qui sont là à gréver contre la retraite et ainsi de suite. Même si on a le droit de le faire, mais toi-même, consciencieusement, si on te dit d'aller gréver, tu ne vas même pas le faire.
Moi, je peux dire qu'on a peur de gréver parce qu'on a le droit. Exemple frappant qui est là. Au niveau du logement, on peut gréver sur ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dehors. On peut pas, il y a des choses qu'on peut pas gréver, mais il y a des choses qu'on peut gréver pour une revendication, comme le logement par exemple. On peut, parce que c'est notre droit qui doit nous loger. Si, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dehors. On peut gréver sur ça, au niveau du logement. Ça, c'est une grève, on peut faire ça. Mais d'autres peuvent dire on a peur, comme ce que le monsieur vient de dire. J'ai peur, ah, je ne suis pas en règle, j'ai peur, si je grève, je risque de. Mais puis c'est sur moi, tu as peur de ça. C'est ça l'idée qu'on a en tête. Mais si on a les droits, si on a des associations qui nous accompagnent, mais il y a des choses, on peut gréver nous aussi. Mais seulement qu'on n'a pas les leaders qui nous. Comment tu peux dire? On n'a pas.
Tu n'as pas la force.
Non, on a la force. C'est ce que, on a peur, c'est ça. C'est tout qu'on a c'est peur. C'est ça. C'est la peur, on a la peur.
Donc si nous aussi, on avait, par exemple, une syndicat qui s'occupe de nous, les migrants, qui dit, bon, si ça ne va pas, c'est ici que les migrants vont venir réclamer leurs droits. On a des gens là. Nous aussi, on peut gréver là-bas. On a notre droit. Ce n'est pas nous qui avons créé ces trois mots-là, la liberté, la fraternité et l'égalité.
Moi, c'est quoi ces trois mots-là? Ça s'applique aux personnes qui ont des papiers,
ouais,
qui ont régularisé. Moi, je trouve que ce sont et les bénéficiaires de ces trois mots.
Ouais, ouais.
C'est pas aux immigrants.
Mais les migrants, vous savez quand même, on a trois choses. Car on a droit aux santé,
droit au logement, droit à la nourriture. Mais si ils nous donnent pas ça, on a le droit de gréver sur ça ou bien On a droit à la santé, non?
Oui.
Et maintenant, par exemple, tu vas à l'hôpital, on te soigne pas. Mais tu dois gréver. Ou bien tu as droit au logement. Oui, mais on a droit au logement, mais tu es là jusqu'à présent, on ne t'a pas logé. Non, attendez, pourquoi on n'a pas grévé? On a dormi combien de jours? 115. 115 nous a mis à la porte le moment qu'il faisait froid. 115 nous a mis à la porte. Où dormir? Mais si on avait des syndicats aussi, nous, si on devait gréver, il y avait des gens qui sont venus pour nous dire de gréver. Mais le jour où on était sortis, mais tout le monde, il y avait Blanc qui dit gréver. Moi, je suis journaliste, ils sont venus nous voir. Je suis journaliste, gréver, on va vous suivre. Mais les migrants, on s'est constaté, on dit attends, et c'est les Français. Ah, c'est pas les gilets jaunes qui nous poussent à gréver, là, on ne sait pas, on ne comprend pas. On dit vous savez, on n'a rien. Si on grève comme ça, ce n'est pas bon pour nous. Vous voyez ? Mais on était obligé de quitter. Mais il y a les Français qui nous poussaient. Et il y avait un micro. Il dit grévez, on va vous soutenir. Et il y avait même là, si c'était le maire, je ne sais pas, qui est venu qui nous dit qui de sortie, deux jours, qui vont nous recevoir, qui vont nous loger, tout. Mais après, ça, rien n'est fait. Ça a été comme ça. On dit que j'ai le droit à logement, ou bien. Mais pourquoi on ne m'a pas logé ? Voilà. C'est qu'on doit gréver sur notre droit. Ah. C'est ça, notre droit, on doit gréver, mais on a peur. Comme on dit, tu as peur parce que tu n'as pas de papier. Ouais, on peut. C'est ça seulement qu'il y a dans nos têtes. On a peur.
Pas de force, en fait.
C'est ça.
Non.
Même si tu as la force, tu n'as pas la force.
Quand nos droits ne sont pas respectés, déjà, c'est une forme de violence. Mais ce que je veux dire, c'est quand je parle de violence étatique, c'est plus dans le sens de l'administration. Parce que pour nous qui sommes des étrangers qui, selon les lois, devons bénéficier de certaines choses et que dans la pratique, ce n'est pas ce dont on bénéficie, c'est une forme de violence. Je vais prendre l'exemple particulier des personnes, par exemple, qui sont en demande d'asile, qui arrivent ici, qui ont vécu des traumatismes. Et je disais à quelqu'un que la première chose qu'on devait faire quand ces personnes arrivent, c'est d'essayer de voir comment elles vont, non seulement physiquement, mais surtout mentalement. Ça veut dire que souvent, les séquelles de quelque chose ne sont pas forcément physiques. Ça peut rester à l'intérieur. Et ici, quand, par exemple, il y a eu des attentats, qu'est-ce que les gens ont fait ? Automatiquement, ils ont envoyé des psychologues sur les lieux pour essayer de parler aux familles. Voilà. Mais quand les demandeurs d'asile en général arrivent, bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des psychologues qui soient là à leur disposition pour écouter en premier lieu qu'est-ce qu'ils ont dû vivre, qu'est-ce qu'on les réels problèmes. Mais ce qu'on leur offre, c'est plutôt des questionnements sur la véracité de leur vécu. Ça veut dire que si ce qu'ils disent est vrai ou pas. Donc ça, pour moi, c'est une forme de violence déjà. Parce que dire à quelqu'un qui a été agressé, quelqu'un qui a été violé, par exemple, une fille, de prouver que ce qu'elle dit est vrai, c'est une forme de violence. C'est pourquoi je parle de violence statique.
C'est une violence qu'on ne voit pas, mais mentalement qu'on voit. Dans la tête, on sait. C'est la violence. Mais on ne voit pas. Mais on le sent.
On dit que ça va se retourner contre l'État. C'est bien vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais le minimum au moins de permettre à ceux qui viennent aussi de pouvoir faire quelque chose. Quand tu as un enfant, tu n'arrives pas à satisfaire ton enfant normalement comme il veut. Forcément, il aura des langages qui sont pas bien avec toi. Par exemple, moi, j'ai un petit garçon de 6 ans qui revient de l'école qui me dit que « Maman, je veux une paire de Mac. » Et je lui dis que non, je n'ai pas de moyen de t'acheter une paire de Mac. Et puis il me dit « Ah !» Quand il voit quelque chose avec ses amis, il me dit « Ah, maman, je veux que tu payes ça. » Et puis à la moindre, quand je veux parler, il me dit « Je sais, tu vas dire d'attendre un peu, je ne travaille pas encore. » Donc quand on voit toujours son enfant qui est en train de toujours te dire ça, c'est vrai que nous déjà, la mère, l'enfant est en train de nous manquer de respect. Et puis, on ne peut pas répliquer parce que c'est notre enfant et ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Je me dis que l'enfant est en train de se former une carapace déjà qui fait peur et il peut réagir à la moindre erreur, à la délinquance un jour que je ne souhaite pas que ça arrive. Donc, je peux dire que le manque de boulot et puis le manque d'être émancipé un jour. Parce que quand tu es dans les procédures, tu ne sais pas quand est-ce que tu seras émancipé. Comme Kofi l'a dit, toujours être assisté et puis avec des frustrations. Donc pour finir, tu refuses de demander de l'aide et puis tu restes dans le coin. Tu es frustré quand ton enfant te regarde, ton enfant sait que maman est frustrée. Et puis lui aussi, il développe d'autres idées derrière la tête. Donc tout ça, de génération en génération, ça peut se retourner contre l'État.
Au final, on te maintient, mais on te détruit. Ainsi, on te donne l'espoir, mais on ne l'accomplit pas. C'est pourquoi on a compris qu'ici, pour toute chose, il faut des papiers. Notre seule revendication, c'est d'avoir des papiers pour être stable et autonome, pour ne plus avoir de crainte et pour pouvoir bouger légalement comme tout le monde.
Au final, on te maintient, mais on te détruit. Ainsi, on te donne l'espoir, mais on ne l'accomplit pas.
C'est pourquoi on a compris que ici, pour toute chose, il faut des papiers.
Notre seule revendication, c'est d'avoir des papiers.
Pour être stable et autonome.
C'est vrai que quand on arrive, on a envie d'être accueilli, mais La première période, on a besoin d'aide, évidemment, parce qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. On a besoin d'être aidé. Mais après, on veut être autonome. On veut être libre. On veut vivre comme les autres. Vivre, être autonome. On n'a pas besoin de dépendre de l'État. C'est pourquoi ça dépend des pays. Ils sont libres de faire leur choix. Mais des pays où on choisit d'assister à hauteur de... On donne les aides à l'allocation des demandeurs d'asile ou des pays où on ne donne pas et puis on te dit, on te donne le droit de travailler. Bon, ce sont les choix de chaque pays, mais moi, je préfère qu'on me dise, on te donne le droit de travailler. Déjà, quand on te donne le droit de travailler tout de suite, tu seras obligé d'apprendre la langue au contact des personnes. Voilà. Donc, ça fait déjà, tu apprends deux choses. Tu apprends déjà à être autonome. Ça fait un facteur d'intégration. Et puis, voilà. Mais ici, on te dit, on ne te donne pas le droit de travailler. Voilà. Heureusement que c'est en train d'évoluer, mais c'est encore limité, quoi, parce que si ça dépend de la directe, ça dépend de tout ça. Là, moi, je crois même qu'on doit tout enlever, tout ça. Tout le monde arrive, tout le monde a le droit de travailler pendant ta procédure. Si ta procédure est finie, on dit, ta procédure n'a pas marché. Si tu peux faire autre chose, ça veut dire que si tu as pu t'intégrer ou tu as eu un travail, heureusement. Bon, les autres cas, c'est d'autres, on trouve d'autres solutions, mais au moins, ça sera fait quelque chose, parce que comme Matt le disait, tu perds le temps, on ne le rattrape pas, le temps, il passe. Il passe le temps, une procédure qui va durer 2 ans. Mais 2 ans, ce n'est pas 2 jours. Donc, au moins, même si tu as travaillé, peut-être financièrement, tu auras fait des économies, tu auras été au contact de personnes qui t'auront appris beaucoup de choses, parce que c'est ça aussi la richesse. Quand on rencontre des amis, on se fait des amis. Et puis bon, peut-être que tu seras aussi formé, parce que voilà, on se forme quand on apprend. Donc, on ne perd rien, quoi. Mais attendre comme ça, non seulement nous fait grossir, parce que tu manges, tu dors, tu grossis. Ça fait grossir, ça.
C'était « A-t-on le droit d'exprimer sa colère ?» Documentaire réalisé par la télé-radio à plus d'une voix. Et pour la musique, Manuel Chabani. We'll be right back.
tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores, mais aussi des rendus d'ateliers radio réalisés par Radio Saint-Fé.
Petites Échappées, c'est un peu la petite sœur de notre programme Les Ondes Buissonnières, des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Retrouvez une sélection de programmes créés par nos partenaires, collectivités locales, radios associatives ou toute autre structure ayant créé un contenu que nous décidons de diffuser.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.